la chanson. Aujourd'hui, l'avant-dernière émission consacrée à Léo Ferré par Martin Penet et Mathieu Ferré.
Tous ces mots qu'on emploie aujourd'hui. La provocation, c'est une stature normale de l'artiste, n'est-ce pas? Qu'il soit peintre, qu'il soit sculpteur, à partir du moment où il fait une chose nouvelle, il faut qu'il provoque le désennui chez les gens qui sont habitués à voir toujours la même chose, je crois. La provocation, c'est une façon d'être, c'est un style de l'artiste, sinon c'est pas un artiste.
Mathieu Ferré, bonjour.
Bonjour.
L'œuvre de votre père est traversée par de nombreux thèmes. Vous en avez retenu deux que vous souhaitiez approfondir, l'amour et l'anarchie.
Ben oui, l'amour. Mon père disait qu'il se mettait à genoux devant une femme qu'il aimait. Mais des fois, la femme, quand elle vous voit à genoux, ben, elle vous enfonce, elle vous écrase. Et rentre dans votre esprit, dans votre cerveau, elle veut vous dominer, quoi. Et donc, c'est difficile, quoi. C'est terrible, ça. Puis l'anarchie, les gens ne savent pas ce que c'est l'anarchie dans le fond, ça fait peur, tu vois. C'est mal interprété. C'est dommage parce que c'est magnifique, quoi. C'est la plus belle chose qui existe, je crois. Et il y a des personnes qui pensent toujours être supérieures à l'autre, donc c'est pour ça que ça n'existera jamais. Un qui est plus grand, un qui est plus intelligent, un qui est plus beau, un qui est plus riche, un qui est plus ci, plus ça. Moi, je suis toujours plus que l'autre. Donc voilà, c'est le respect, l'amour. C'est beau l'anarchie.
Alors nous entendrons la voix de Léo Ferré, bien sûr, nous parler de ces deux thèmes, et puis le point de vue de Patrick Buisson. Patrick Buisson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et écrivain. On vous doit une contribution à un ouvrage intitulé « Avec le temps ». Donc sorti après la mort de Léo Ferré aux éditions du Chêne.
Voilà comment ça s'est fait. Léo Ferré avait écrit des textes sur les photos de son ami Hubert Grotklaas, des textes qui étaient en quelque sorte la traduction, non pas la traduction, mais la mise en image poétique de ce que lui inspirait l'œuvre d'Hubert Grotklaas. Ces textes et ce travail photo et poésie de Léo avait été exploité dans le cadre de publications hors commerce. Nous avons, après la mort de l'un et de l'autre, rassemblé et les documents, les images et les écrits de Léo sur les photos d'Hubert Grotklaas, et j'ai ajouté un essai qui s'appelait « C'est l'histoire d'un métamec ». Le tout a été publié sous le titre « Avec le temps » aux éditions du Chêne en 1995. Ce fut la première production éditoriale posthume, postérieure à la mort de Léo Ferré et d'Hubert Grotklaas, qui l'a suivi dans la mort un an plus tard, 15 mois plus tard.
Patrick Buisson, est-ce que vous pourriez nous parler des thèmes majeurs qu'on retrouve dans l'œuvre de Léo Ferré?
Il y a tellement de thèmes dans l'œuvre de Léo Ferré qu'il faudrait effectivement plusieurs émissions pour arriver à les cerner, parce que je crois que la caractéristique de l'œuvre de Ferré, c'est que c'était une mer interne, c'est-à-dire qu'il est revenu sur tous les textes ou la plupart des textes qu'il avait écrits tout au long de cette longue période créatrice qui a duré 40-50 ans, et que finalement l'œuvre de Ferré est une œuvre en mouvement. Elle était sans cesse en devenir, en création permanente. C'est pour ça qu'on a vu ressurgir 30 ans après d'autres des textes qu'il avait écrits en 1950-1955, arrangés, habillés, amplifiés, modifiés avec ce que lui apportait l'inspiration du moment où il les écrivait 20 ans ou 30 ans plus tard. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui est en perpétuelle mutation, l'œuvre de Ferré. Il y a quelques textes, il y a beaucoup de textes qui apparaissent comme figés, mais on voit, quand on est attentif à sa manière de travailler et d'écrire, que le lyrisme de Ferré connaît des phases différentes qui l'amènent à revisiter des textes anciens.
Tant que nous écrirons nos noms sur les arbres malades de l'automne. Les oiseaux pourront chanter, nous pourrons nous aimer. Je suis celui que tu attends, je suis celui qui t'aime tant depuis longtemps, aussi longtemps. S'il t'arrivait de m'oublier, sache que moi, je n'oublierai jamais.
Lorsque nos noms seront fanés sur les arbres malades de l'automne, les oiseaux pourront partir, nous pourrons en mourir. J'étais celui que tu attends, j'étais celui qui t'aimait tant depuis longtemps. Car notre amour est plus fort que l'amour.
Plus particulièrement sur l'amour et l'anarchie, qui d'ailleurs sont les deux thèmes du titre d'un album célèbre de Léo Ferré, est-ce qu'on pourrait s'appesantir un peu plus déjà sur ces deux thèmes-là qui semblent être vraiment très importants?
Alors, ces deux thèmes parcourent effectivement toute l'œuvre de Léo Ferré, mais ils ne sont vraiment officialisés. Il officialise cette double identité qu'à partir des années 68-70. Amour-anarchie, l'année 68 est évidemment une année de césure pour lui, dans la mesure où il y a une grande rupture dans sa vie affective, et où il y a les événements que nous connaissons. Eh bien, cette année rassemble toutes les révoltes de Ferré et les unifie dans une sorte de bain de plénitude. Mais les choses sont plus difficiles, ou en tout cas moins simples que les apparences ne le laisseraient croire. Lorsque Ferré a parlé de l'amour dans ses premiers textes, ses premières chansons, sa référence, son premier résus, c'est celui de l'amour courtois. C'est un amour spirituel, détaché de toute considération charnelle, même s'il évolue dans une sorte d'éther amoureux. On voit des textes comme par exemple « Les temps chimériques »,« Notre amour »,« Le fleuve aux amants »,« Le bateau espagnol ». C'est un Ferré très classique. À partir de 68, la manière dont il traite de l'amour dans sa poésie est totalement différente. Là, il y a une nette césure, il va vers une espèce de sensualité exacerbée. Il y a un érotisme de la poésie de Ferré après 68 qui n'existe pas dans les textes antérieurs. Il y a par exemple toute une série de métaphores ou d'images qui sont là, on voit bien, pour fixer des vertiges que Ferré n'abordait pas. Non pas qu'il les taisait, non pas que c'était un tabou, mais ce n'était pas son inspiration du moment dans la période antérieure à mai 68. Vous voyez par exemple la manière dont il parle du sexe de la femme à partir de 68 dans des textes comme « Il n'y a plus rien », comme dans cet extra, qu'est-ce qu'il dit ? Cette touffe de noir Jésus, la cicatrice de la nuit, cette vigne où vendange les fées, ce sont des images très fortes qui ont une sensualité très, très particulière. Je veux dire, l'équivalent à l'époque, il n'y a pas. Il y a d'un côté, pour faire image et peut-être pour être un peu injuste et rapide dans l'appréciation, il y a Gainsbourg qui fabrique des polaroïdes qui sont très émoustillants, un peu les photos qu'on montrait dans les arrière-boutiques justement à cette époque-là. Et puis il y a Ferré qui sort des espèces de daguerreotypes, c'est-à-dire des clichés extrêmement travaillés qui sont des images d'une force incroyable, d'une force de suggestion incroyable. Alors 68 dans l'écriture est véritablement une rupture en ce qui concerne ce thème de l'amour.
Tout
tous ces cris de la rue, ces mecs, ces magasins où je te vois dans les rayons comme une offense, aux bijoux de trois sous, aux lingeries de rien, ces ombres dans les yeux des femmes quand tu passes, tous ces bruits, tous ces chants et ces parfums passants, quand tu t'y mets dedans, quand je t'y exile, pour t'aimer de plus loin comme ça en passant, tous ces trucs un peu dingues, tout cela c'est ton style, ton style, c'est ton cul, c'est ton cul, c'est ton cul, ton style, c'est ma loi, quand tu t'y plies, salope, c'est mon sang à ta plaie, c'est ton feu à mes clopes, c'est l'amour à genoux, et qui n'en finit plus, ton style, c'est ton cul, c'est ton cul, c'est ton cul. Tous ces ports de la nuit, ce monde qu'on voudrait bien, et puis qu'on ne veut plus, dès que tu me fais signe au coin d'une réplique, enfoncé dans ton bien par le sang de ma grappe et le vin de ta vigne, tout cela se mêlant en mémoire de nous. Dans ces mondes perdus de l'an 80 000, quand nous n'y serons plus et quand nous renaîtrons, tous ces trucs un peu fous, tout cela c'est ton style, ton style, c'est ton cul, c'est ton cul, c'est ton cul, ton style, c'est ton droit, quand j'ai droit à ton style, c'est ce jeu de l'enfer, de face et puis de pile. C'est l'amour qui se tait quand tu ne chantes plus. Ton style, c'est ton cul, c'est ton cul, c'est ton cul. À t'en vouloir connaître, on ne connaît plus rien. Ce qui me plaît chez toi, c'est ce que j'imagine à la pointe d'un geste, au secours de ma main, à ta bouche inventée, au-delà de l'indigne, dans ces rues de la nuit, avec mes yeux masqués. Quand tu ne reconnais de moi qu'un certain style, quand je fais de moi-même un autre imaginé, tous ces trucs imprudents, tout cela c'est ton style, ton style. Ton style, c'est ta loi, quand je m'y plie, salope, c'est ta plaie, c'est mon sang, c'est ma cendre à tes clopes, quand la nuit a jeté ses feux, et qu'elle meurt, ton style, c'est ton cœur, c'est ton cœur, c'est ton cœur.
Depuis 68, je suis infiniment heureux. Vraiment, c'est la première fois. On m'a montré une porte qu'on essayait de me montrer depuis longtemps. Puis moi, je voulais pas la voir. Et derrière cette porte, il y avait le soleil. Et depuis, je suis dans le soleil. J'ai 3 ans et demi et 100 000 ans. Cela dit, j'ai l'âge physiologique de tous les gens. Ce qui est pratique dans le vieillissement, c'est que quand on est embêté de vieillir comme ça, dans ses fibres, dans sa propre biologie, c'est qu'on regarde autour de soi et que les autres vieillissent en même temps que vous. Alors, c'est peut-être ça vous garantit contre la peine et contre le désespoir même de vieillir. Ce qui est important dans la vieillesse, c'est de ne pas se voir, de ne pas être vieux dans la tête. Moi, j'ai peur de devenir un vieux con, et si je deviens un vieux con, je ne le saurais pas. Je dis toujours autour de moi, je ne veux pas qu'on me mouche jamais, je ne veux pas être dans une charrette, et si jamais j'étais dans une charrette, je ne le saurais pas. Et ça, c'est le seul problème pour moi que j'entrevois dans la vieillesse.
Nous sommes absents, messieurs. L'amour. Toujours l'amour, ah, cet amour malade, comme une drogue dont on ne peut se dédroguer, comme une drogue à laquelle je me souhais. Je suis un trafiquant d'amour, des armes, comme un sourire de l'autre côté de la tête, comme une façon de désarmer, comme un chien qui vous aime, des armes qui vous lèchent, qui vous sortent, qui vous bercent, des armes pour inquiéter l'inquiétude. Et puis, le code de la peur à distribuer à tous ceux qui habitent avec la peur que la peur habite. Article 1, j'ai peur. Article 2, j'ai peur. Article 3, j'ai peur. Article 4, où sont les toilettes ? Des armes. Comme une esthétique de la solitude. Quand on est seul et armé, on n'est plus seul. Quand on est seul et désarmé, on fait une demande pour être CRS. L'amour, toujours l'amour, ah, cet amour serein, cet amour qui vous monte à la bouche comme une grenade, qu'on ferait bien éclater dans quelques ventres passants, dans quelques ventres curieux, oisifs, en mal d'amour. Des armes, comme un planning de la résurrection. Et quant aux armes blanches, on pourrait les teinter de rouge dans une teinture particulière et à la portée de toute portée. Nous, d'une autre trempée, d'une singulière extase, nous de l'épique et de la déraison. Nous de l'autre côté de la terre et des phrases. Ô ma sœur la violence, ô ma sœur de raison. Au quartier des terreurs, des enfants se sont mis à brouter des étoiles. La voie lactée s'est mis donnée dedans leur toile. Et la carte du ciel dans ce quartier de France indiquait aux passants la route à ne pas suivre. Il brumait dans le ciel des paroles de givre. C'était d'un cinéma nouveau et d'une danse qu'on ne danserait plus avant longtemps. Nanterre se prenait pour Paris. Et le tour de la terre se faisait sur un signe, une pensée de fièvre, un désir de troubler les fleurs et les manières, une particulière oraison, un sourire à mettre les pavés à hauteur d'un empire. Le sable des pavés n'a pas la mer à boire. Ça sent la marée calme dans les amphis troublés. Le sable des pavés n'a pas la mer à boire. Ça sent la marée calme dans les amphis troublés. Des portes de secours sont ouvertes là-bas. Il suffit de pousser un peu plus, rien qu'un geste. Il suffit de pousser un peu plus, rien qu'un geste. Il suffit de pousser un peu plus, rien qu'un geste. Ce qui est important pour l'homme, c'est aimer. J'ai dû reconquérir un peu... Si par exemple, moi, je voulais séduire une femme en lui chantant une chanson d'amour, je pourrais pas la chanter, quoi. Et conquérir, alors là, conquérir. Conquérir. Ah, tu parles, c'est ça, quoi. C'est dire conquérir, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait? Je conquiers. Quoi? Je conquiers. Mais conquérir. Comment on dit conquérissez? Je sais plus. Non, c'est un vocabulaire. L'important, c'est pas de conquérir, c'est le drame, c'est de vouloir conquérir. Alors, ça, c'est la fin des haricots. Parce que l'amour, ça se fait. Ça fait même sans se toucher. Hein. Je te ferai voir.
Tu parles, Léo, dans cette chanson, des mots des pauvres gens, avec le temps. Est-ce que l'amour, c'est prosaïque?
Pas du tout, non. Les pauvres gens, c'est pas dans le mauvais sens du terme. Hein. Des gens simples, quoi.
Il faut dire « je t'aime ».
Bien sûr, si c'est vrai, si on le pense, quoi. Je t'aime. Et puis d'ailleurs, on n'a même pas besoin de le dire. Ça se voit, ça se sent, ça se prend dans les bras, comme ça, dans les cellules, quoi. Il faut que l'autre, le camarade, la camarade rentre chez vous. Le problème, c'est qu'on croit au Père Noël, comme on dit, et on est seul, quoi. On est vraiment seul. Et la chance qu'on peut avoir, c'est de ne pas être seul le temps de la vie pour essayer de se la faire doucement, tranquille, quoi. Parce qu'on est tout seul, on meurt tout seul. Entre les deux dates, il y a des faits divers qu'on ne choisit pas. Alors je dis aux gens, quand j'ai l'occasion, choisissez vos faits divers. Ah oui, quand tu vois une route, tu prends à droite ou à gauche? Ah.
Lorsque tu me liras, Christy, je te regarderai dans le pare-brise. Tu viendras à moi tout entière comme la route. Lorsque tu me liras, la maison sera silencieuse et mon silence à moi te remplira tout entière aussi. Avec toi, dans toi, je ne suis jamais silencieux. C'est une musique très douce que je t'apporte. Quant à toi, tu verses au plus profond de ma solitude cette joie triste d'être. Cet amour que jour après jour, nous bâtissons en dépit des autres. En dépit de cette prison où nous nous sommes mis, en dépit des larmes que nous pleurons chacun dans notre coin, mais présents l'un à l'autre. Je te voyais ces jours-ci, dans la lande là-bas. Tu sais, je t'y voyais bouger, à peine te pencher vers cette terre que nous aimons bien tous les deux, et tu te prosternais à demi, comme une madone. Mais je n'étais pas là, et toi, ce que je voyais, c'était mon rêve. Ne pas te voir, plus que je ne te vois, je me demande la dette que me fait ainsi payer. Pourquoi ? L'amour est triste, bien sûr, mais c'est difficile, au bout du compte, difficile. Dans mes bras, quand tu t'en vas longtemps vers les étoiles et que tu me demandes de t'y laisser encore, encore, je suis bien, c'est le printemps, tout recommence, tout fleurit, et tu fleuriras aussi de moi, je te le promets. La patience, c'est notre grande vertu, c'est notre drame aussi. Un jour, nous ne serons plus patients, alors tout s'éclairera, et nous dormirons longtemps, et nous jouirons comme des enfants. Tu m'as refait enfant, j'ai devant moi des tas de projets de bonheur, mais maintenant, tout est arrêté dans ma prison. J'attends que l'heure sonne, je me perds dans toi, tout à fait. Je t'aime, Christy. Je t'aime.
Si on regarde les choses en profondeur, on s'aperçoit que la dimension sacrée dans l'œuvre de Ferret est pratiquement absente, sauf dans le domaine de l'amour. Le sacré est la seule attitude religieuse chez Ferret. Non pas situé dans des nuées métaphysiques, il n'était pas apparemment préoccupé par ces problèmes-là, mais sur le continent amoureux. Et le grand paradoxe, c'est que Ferret, qui a été le chantre de l'amour rédempteur, de l'amour qui sauve, de l'amour qui permet de sortir de soi-même, va passer en quelque sorte à la postérité en 71 avec une chanson qui est un concentré de nihilisme absolu, qui est Avec le temps. Et cette chanson Avec le temps, on l'a beaucoup apprécié, puis beaucoup décrié, en disant qu'on ne pouvait pas ramener l'œuvre de Ferret à ce simple texte qui est peut-être, avec une chanson comme cet extra, la plus connue de l'œuvre de Ferret. Mais, comme tous les grands textes, finalement, on va la redécouvrir. On va la redécouvrir parce qu'on s'aperçoit que cette chanson, elle est le prototype même de ce que peut être une chanson réussie. Elle part d'un cas particulier, l'histoire personnelle de Léo Ferret. Elle s'échappe vers le général, elle a l'air de ne s'adresser qu'à lui-même, mais elle parle à tout le monde, et elle parle surtout à celui qui l'écoute. C'est à la fois une tranche de vie, celle de Léo Ferret, et c'est en même temps un instantané de sociologie instinctive que fait Ferret. Car il faut voir dans quel contexte vient cette chanson. Cette chanson, au début des années 70, elle est inscrite dans un mouvement social qui est celui de la libération des mœurs, l'explosion du divorce. Ferret croit composer un monologue intérieur avec le temps, et en fait, il nous livre la bande-son de notre propre histoire, de l'histoire d'une génération qui s'est mariée et qui a beaucoup divorcé. Hein, c'est ce qui correspond vraiment, le phénomène sociologique marquant du début des années 70, c'est cela. La libération des mœurs aboutit à la remise en cause de ce que Ferret appelait la dictature sentimentale du mariage. Lui vient de s'échapper du mariage. Hein, il a rompu en 68 avec sa seconde femme. Et Ferret saisit ça. Son histoire personnelle recoupe ce qui est le blues de toute une génération et qui cogne brusquement au temple de cette génération. C'est le code d'accès à quantité d'histoires qui sont des histoires qui nous touchent, parce que ce sont finalement nos histoires. Et la réussite d'une chanson comme Avec le temps, justement, c'est d'échapper à ce qui a été la matrice de sa création, l'histoire personnelle de Léo, pour toucher un parterre illimité. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment le grand paradoxe. Ferret, dans la première période, était inspiré par les références surréalistes de l'amour fou. Il y a une chanson qui s'appelle « L'amour », justement, dont des gens comme Benjamin Perret ont dit que c'était probablement la chanson de l'amour absolu. Hein. Il l'a fait figurer d'ailleurs dans son anthologie de la poésie surréaliste. Eh bien, ce Ferret qui croit en l'amour rédempteur, avec un texte comme « Avec le temps », qu'est-ce qu'il fait ? C'est une déglutition de l'amour. C'est une véritable lobotomie sentimentale. Il remise au magasin des accessoires là, cette espèce de statue en plâtre de l'amour fou qu'il avait longtemps adoré. Et une chanson qu'il écrit quelques années après revient sur ce thème, qui donc les amantrices, qui donc réparera l'âme des amants tristes. Bien, voyez, Ferret est à la fois, et on va voir que c'est une attitude qu'on retrouve dans son inspiration et dans le développement et la maîtrise de son lyrisme. Ferret est quelqu'un qui est toujours en position de... C'est le propre d'ailleurs des poètes, d'amener ses propres contradictions jusqu'à faire en sorte qu'elles rencontrent quelque chose qui est diffus, qui appartient à tout le monde, qui est universel. C'est vraiment le propre du littérateur et du poète.
Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire, je sais très bien. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre, qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre, qu'on devinait au détour d'un regard. Entre les mots, entre les lignes, et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps va, tout s'en va même. Les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ces gueules à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort le samedi soir quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps va, tout s'en va et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus. Garde cet accord à la fin. Alors, faites-moi plaisir. Comme ça, vous serez tout à fait avec moi. Je m'en vais. Je vous souhaite bonne nuit. N'applaudissez pas à cette chanson. Hein? Merci d'avance.
Chez moi, à la maison, ni au collège des frères des écoles chrétiennes, il n'était pas question qu'on parle d'anarchie ou qu'on vive l'anarchie. Et un jour, j'ai regardé sur ce... J'avais 14 ans, sur ce dictionnaire, j'ai regardé un mot anarchie. Il y avait tout simplement négation de toute autorité d'où qu'elle vienne. C'est ça la vie en société. Voilà. La négation de toute autorité d'où qu'elle vienne. Vous savez, l'anarchie, pour moi, c'est pas le fusil, c'est pas le tuer quelqu'un, c'est pas le coup de poing dans la tronche. L'anarchie, c'est vous passez dans la rue, vous voyez quelqu'un qui vous est sympathique, vous saluez, et lui aussi. Sinon, vous saluez pas. Mais vous vous respectez.
c'est le respect de l'autre. Voilà.
Concernant l'anarchie, à présent, j'ai ferré un mot trop souvent galvaudé, auquel lui souhaitait donner une définition beaucoup plus précise.
Alors là aussi, il y a des ambiguïtés extraordinaires. Toute la génération de mai 68 a cru trouver en Léo le prophète, l'annonciateur de la société auquel elle aspirait. Mais il y a eu une confusion initiale qui s'est assez rapidement dissipée. Parce que là encore, on va retrouver finalement les mêmes attitudes. Je disais, Ferret chante de l'amour rédempteur qui finalement passe à la postérité ou à l'éternité avec une chanson comme Avec le temps, c'est une chanson d'un pur nihilisme. Eh bien, on verra qu'en ce qui concerne sa conception de l'anarchie, on a un basculement du même ordre. La grande confusion, c'est d'avoir cru quoi ? Que Léo était porteur d'un projet collectif. Or, l'anarchie de Ferré, il l'a toujours dit, c'est une excroissance de la solitude. C'est-à-dire, c'est une insurrection solitaire. L'anarchie l'intéressait en raison de son potentiel lyrique, de sa force subversive, y compris dans l'écriture. Il n'y avait aucune chimère collectiviste dans sa démarche. Qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs ? Les aphorismes de Ferret, qui ont une puissance, une phosphorescence extraordinaire, par rapport même à ce qu'on a pu voir écrit sur les mai 68. Il dit, le drapeau noir, c'est un beau drapeau, mais c'est encore un drapeau. Et puis, quand il écrit un texte comme Il n'y a plus rien, quelle est la leçon, finalement ? La leçon, c'est que la rencontre entre l'homme et une utopie politique comporte toujours un destin funeste, se termine mal. Il pressent d'ailleurs ce qui est en train de se passer, par exemple, dans le bloc de l'Est. Alors, on réclame à Ferret, à partir de 68-70, d'être une sorte de gourou. Et lui, qu'est-ce qu'il a à délivrer ? Mais il a à délivrer ce qu'il appelle la somme alluviale de ses négations, selon une formule qu'il affectionnait, le désir de troubler les fleurs et les manières. Il y prend ton point, oui, et puis faisant une fleur matinale. Évidemment, c'est pas un programme politique, c'est un programme lyrique, c'est une révolution intérieure, mais ça n'a rien à voir avec ce que certains attendaient de lui. D'où le désenchantement. Hein, c'est pas l'agile propre que fait Ferret, c'est une agile propre sur le terrain poétique. Quand il dit l'anarchie, c'est la formulation politique du désespoir. Il en viendra par son écriture et par sa propre trajectoire personnelle à montrer que c'était moins la formulation politique que poétique du désespoir. C'est-à-dire une manière d'être, une manière d'écrire, de ressentir les choses. Le véritable ethos de Ferret, c'est pas la révolte, quoi qu'on en ait dit. La révolte, c'est tout chez Ferret, une espèce de combustion intérieure, une mise en scène lyrique, une dramaturgie interne. Il en a tiré un parti formidable dans ses récitals. Le contraste du noir et du rouge, c'est cet affrontement très dans l'univers chromatique de l'Espagne. Il y faisait beaucoup référence. Mais ne voir Ferret qu'à travers ça, c'est confondre ou réduire la poésie à la militance. Ferret, au-delà de la révolte, qui n'est encore une fois ni originelle ni primordiale chez lui, le véritable ethos de Ferret, c'est la mélancolie.
Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules, mais la solitude. Les moules sont d'une texture nouvelle, je vous avertis. Ils ont été coulés demain matin. Si vous n'avez pas, dès ce jour, le sentiment relatif de votre durée, il est inutile de vous transmettre. Il est inutile de regarder devant vous, car devant, c'est derrière. La nuit, c'est le jour.
Oh,
Il est de toute première instance que les laveries automatiques au coin des rues soient aussi imperturbables que les feux d'arrêt ou de voie libre. Les flics du détersif vous indiqueront la case où il vous sera loisible de laver ce que vous croyez être votre conscience et qui n'est qu'une dépendance de l'ordinateur neurophile qui vous sert de cerveau. Et pourtant... Désespoir est une forme supérieure de la critique. Pour le moment, nous l'appellerons bonheur. Les mots que vous employez n'étant plus les mots, mais une sorte de conduit à travers lequel les analphabètes se font bonne conscience. Mais... La solitude, la solitude, la solitude! Le code civil, nous en parlerons plus tard. Pour le moment, je voudrais codifier l'incodifiable. Je voudrais mesurer vos danaïdes démocraties. Je voudrais m'insérer dans le vide absolu et devenir le non-dit, le non-avenu, le non-vierge par manque de lucidité. La lucidité se tient dans mon froc.
La solitude, Léo Ferret, c'est le lot des anarchistes, mais vous êtes vraiment seul aujourd'hui ?
Non, ce n'est pas le lot des anarchistes. Les anarchistes arrivent toujours aujourd'hui pour se rencontrer. C'est ce que je...
C'est vous qui le disiez à une certaine époque, d'ailleurs.
Oui, parce que les anarchistes, c'est, moi j'en connais un ou deux, ils sont seuls, vous savez, ils sont souriants, ils sont seuls. Dès qu'il y en a deux, ça commence à être dangereux. À trois, c'est la guerre, n'est-ce pas ? Les anarchistes, vous savez, l'anarchie, c'est Larousse, c'est facile. Tel monsieur de Larousse, là, il ne me contredira pas. Et un jour, on parlait tellement de l'anarchie, d'ailleurs, j'en parle plus ce mot-là, parce que les gens ne savent plus ce que c'est. L'anarchie, c'est la négation de toute autorité d'où qu'elle vienne. Je pense que je n'ai jamais rencontré quelqu'un, en tout cas pas dans mon entourage, qui me dise j'aime les coups de pied au cul, j'aime qu'on me dise il faut faire ça, j'aime la règle, j'aime la loi. Non, personne, n'est-ce pas ? Il y a que les hommes politiques qui aiment la loi parce qu'elle les arrange.
Alors aujourd'hui, vous vivez en Italie, près de Sienne. Il paraît que vous faites votre vin, vous faites votre huile d'olive. C'est une fuite de la France. Pourquoi l'Italie ?
Non, parce que l'Italie, l'Italie, j'aime beaucoup. Moi, je suis un peu à moitié italien, d'ailleurs, par mes grands-parents. Et j'ai retrouvé là-bas le sud, quoi. Les gens là-bas ne sont pas encore tout à fait immatriculés. C'est pas mal. Moi, que je dis ça, moi, c'est important, puisque moi, je suis immatriculé depuis longtemps, puisque moi, j'étais le numéro 38. Vous savez, j'ai une timbale à la maison dans laquelle je bois mon vin de temps en temps, où il y a 38. Puis mes couverts, il y a écrit 38. C'est horrible.
Le sourire de ceux qui font chauffer leurs gamelles sur les plages reconverties et des moustiquets, c'est-à-dire en enfer. Là, je suis un chien, perhaps, je suis un rat, rien. Avec le cœur battant jusqu'à la dernière battue, nous arrivons avec nos accessoires pour faire le ménage dans la tête des gens. Apprends donc à te coucher tout nu. Fous en l'air tes pantoufles. renverse tes chaises, mange debout, assois-toi sur des tonnes d'inconvenances et montre-toi à la fenêtre en gueulant des gueulantes de principes. Si jamais tu t'aperçois que ta révolte s'encroute et devient une habituelle révolte, alors sors, marche, crève, pèse, aime enfin les arbres, les bêtes, et détourne-toi du conforme et de l'inconforme. Lâche ces notions, si ce sont des notions. Rien ne vaut la peine de rien, il n'y a plus rien.
Parlez souvent de l'enfance, Léo Ferré. Ça a une importance considérable dans la vie d'un homme?
Ça dépend comment elle vient, comment elle se passe, quoi. Je crois que c'est toute la vie d'un homme qui se décide, hein. Vous savez, bon, j'étais dans un collège pendant 8 ans, dans un collège religieux, et bon, on m'a appris ce qu'il ne faut pas apprendre, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on m'a appris le sens du péché, tout ça. Alors, je me garde bien de... Je disais l'autre jour à quelqu'un qui me demandait si mon fils allait à l'école, comme j'habite en Italie, il ira forcément à l'école en Italie, seulement j'ai un problème parce qu'en Italie, il y a cette histoire de religion qui est abominable, n'est-ce pas? Et qui, vous savez que dans un commissariat de police, il y a le Christ, au tribunal, il y a le Christ, j'ai rien contre le Christ particulièrement quand c'est une œuvre d'art, n'est-ce pas? Mais quand c'est une obligation morale et policière, c'est pas pareil, n'est-ce pas? Et alors j'ai dit, je pourrais pas supporter qu'on apprenne le catéchisme à mon fils, enfin l'école, les choses de fausses qu'on m'a appris et qui risquent de fausser la vue et l'esprit d'un enfant.
Mais s'il venait de lui-même?
Ah, ça m'étonnerait, vous savez. Je m'emploie à lui faire voir le monde d'une certaine façon, quand même. Si je peux faire quelque chose pour lui, dans ce sens-là, je le ferai.
Une cigarette, sans cravate. Qu'on fume à l'aube démocrate. Et le remords, des coups de jatte. Avec la peur. Mystère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un ballon vers les étoiles, et cette rose sans pétale qui tombe froide sur la dalle, cet avocat à la serviette, ce taupe qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu. Ces bois que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ceux que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont ni Dieu, ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette. Cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
beaucoup aux jeunes. Vous savez qu'ils n'ont pas aidé les jeunes. Pas du tout. On parle beaucoup d'eux, on dit la jeunesse est libérée, tout ça. Les jeunes, ils sont seuls. Et il y a ce fossé qui est entre les jeunes et les vieux. Pour moi, les jeunes, c'est ceux qui n'ont pas encore accédé au boulot, quoi, à leur truc, vous comprenez. Et c'est pour ça que le danger de ces jeunes qui sont seuls, qui ne sont pas aidés, et c'est vrai, on parle beaucoup de malheur dans le coin parce que les gens qui ont les places, ils les gardent bien. Donc les vieux, hein. Et ce fossé qui est entre ces jeunes qui n'ont rien fait, qui vont faire quelque chose dans la vie, et les autres, j'ai peur qu'ils soient trop vite passés comme ça. Et dès qu'ils sont de l'autre côté, ils sont vieux, tout de suite. Et vous savez qu'il y a des jeunes qui vieillissent d'un coup, hein, et qui sont pires que les autres. Peut-être par réaction. C'est un danger. Cela dit, vous savez l'histoire de la drogue. C'est malheureux l'histoire de la drogue. Mais c'est un fait de solitaire, ça. Et de désespoir du type qui est laissé dans le coin. Hein.
Mathieu Ferré, dans chaque émission, vous nous offrez un inédit de votre père, aujourd'hui.
Aujourd'hui, une chanson que mon père a écrite en 1959, qu'il n'a jamais enregistrée en studio. Et c'est Nicola Reggiani qui va nous l'interpréter, accompagné au piano par Giovanni Mirabassi. Merci Nicola, merci Giovanni.
Ni l'œillet, ni la verveine, je ne suis que la mauvaise graine qu'on a semé comme un caillou sur un chemin à rien du tout. Même les corbeaux me font la gueule, leur pauvre gueule s'en va toute seule quand y a plus rien à leur frichetis qui fait froid et qui fait gris. Je suis ni l'œillet, ni la marlène, je ne suis que la mauvaise graine. Je suis pas du blé qu'on met en germe, je ne suis que la mauvaise herbe qui dresse son cou dans le champ quand par hasard vient le printemps. Même les brebis font des manières et préfère l'herbe buissonnière, celle qui va tout droit chez le client sur un coup d'œil ou en sifflant. Je suis pas du blé qu'on met en germe, je ne suis que la mauvaise herbe. Je suis ni un tel ni machin chouette, je ne suis que la mauvaise tête qui met des verres ou ce qu'il faut pas en comptant bien sur ses 10 doigts. Mes amis ne comprennent rien aux choses et disent que c'est la mauvaise cause, que je râle tout le temps, que ça me fait du tort, qu'il faudrait faire un petit effort pour être un tel ou bien machin et finir chez les villes morins. Bien vraiment, Dieu, c'est pas la peine, ils connaissent pas la mauvaise graine. Au sans œillet, au sans verveine, je dédie la mauvaise graine qu'ils sèmeront comme un caillou sur des chemins à rien du tout. Et des fleurs noires tout en gerbe fleuriront sous de nouveaux verbes. Des fleurs d'amour, des fleurs de rien, des fleurs aussi comme un destin. Quand sur l'œillet ou la verveine poussera la mauvaise graine.
Ferré avait des répugnances instinctives très forte. Et il avait une manière d'être dans le siècle et de s'en échapper, parce que finalement, beaucoup de choses le révoltaient, le dégoûtaient. Et finalement, l'anarchie, pour lui, c'était une façon de s'abstraire du siècle pour mieux retrouver sa condition d'artiste. C'est-à-dire d'être étranger au débat et aux contingences qui soit l'agaçaient, soit étaient pour lui source de mépris, pour retrouver finalement ce qui était sa passion, c'est-à-dire la musique. Ferrer recompose son unité à partir des années 70, au moment où il rencontre Marie, qui va être sa femme, sa dernière femme et sa femme. Voyez, je crois qu'il y a, dans le lyrisme maîtrisé de Ferrer, une sérénité qui est propre à, d'abord, un exil. Il part en Toscane, et puis à la rencontre avec Marie, parce qu'elle lui apporte tout ce qui lui manquait précédemment. On a tous aimé, on a tous été transportés par le lyrisme torrentiel, phosphorescent du Ferret, de « Il n'y a plus rien », des grands textes postérieurs à 68 avec ses grandes phrases imprécatoires, oraculaires, souvent hermétiques, dont on n'arrivait pas toujours à comprendre le sens, mais qui faisait référence à des choses très précises chez lui. Mais peu importe, l'ésotérisme était toujours transcendé chez Ferret par cette espèce de flux bouillonnant de l'émotion qui faisait qu'il nous parlait dans une langue cryptée, dont il était le seul à détenir le chiffre, le code, mais on avait l'impression que c'était une langue maternelle. On avait l'impression que ça s'incorporait à notre propre monologue intérieur. Et c'est d'ailleurs la raison du succès prodigieux d'une chanson comme « La mémoire et la mer ». Eh bien, Ferret retrouve ce lyrisme et un lyrisme beaucoup plus serein à partir du milieu des années 70, et je crois que là, c'est la rencontre avec Marie qui est décisive. Chardon dit « Tâchez de vivre longtemps afin de recoller tous les morceaux de votre personne ». Bien, c'est la rencontre avec Marie qui permet à Léo de recomposer son unité. Unité d'abord dans la musique. Moi, je crois que c'est très important d'insister sur cette dernière période, parce que cette dernière période, elle permet à Ferret de renouer avec son inspiration originelle. Et le rôle de Marie, la rencontre avec Marie, le paysage de la Toscane, donne bien la couleur et la dimension de ce qu'est l'œuvre la plus aboutie de Ferret, c'est-à-dire un chant de solitude et un chant d'amour qui font écho, et en dehors de tout ce qui a pu être, parfois on a dit Ferret écrit en pilotage automatique, il disait souvent « je suis dicté », il avait une manière très conforme à l'esprit des surréalistes de présenter sa poésie. Là, on retrouve quelqu'un qui finalement a maîtrisé complètement son art et qui aboutit à une... qui se retranche dans une plénitude qui est la plénitude de l'amour pour Marie et la plénitude que lui apporte le décor de la Toscane.
Nous sommes tous des bâtards. Ce qui nous sépare aujourd'hui, c'est que votre bâtardise à vous est sanctionnée par le code civil, sur lequel, avec votre permission, je me plais à cracher avant de prendre congé. Soyez tranquille, vous ne risquez rien, il n'y a plus rien. Et ce rien, on vous le laisse. Foutez-vous-en jusque-là si vous pouvez. Nous, on ne peut pas. Un jour, dans 10 000 ans, quand vous ne serez plus là, nous aurons tout, rien de vous, tout de nous. Nous aurons eu le temps d'inventer la vie, la beauté, la jeunesse, les larmes qui brilleront comme des émeraudes dans les yeux des filles, les bêtes enfin détraquées, la priorité à gauche, permettez, nous ne mourrons plus de rien, nous vivrons de tout, et les microbes de la connerie que vous n'aurez pas manqué de nous léguer montant de vos fumures, de vos livres engrangés dans vos silothèques, de vos documents publics, de vos règlements d'administration pénitentiaire, de vos décrets, de vos prières même, tous ces microbes juridico-pantoufles. Soyez tranquilles, nous avons déjà des machines pour les révoquer. Nous aurons tout dans 10 000 ans.
Spécial Léo Ferret, proposé par Martin Penet et Mathieu Ferret. Cette semaine, Amour Anarchie, en compagnie de Patrick Buisson. Nous avons entendu une chanson inédite de Léo Ferret, interprétée spécialement pour cette émission par Nicolas Reggiani, accompagnée au piano par Giovanni Mirabassi. Merci à Florence D'Artois et Anne de Biran pour les archives de l'INA. Mixage, Christian Fontaine et Philippe Thibault. Réalisation, Annie Roger.
Et rendez-vous samedi prochain à 11h05 pour la dernière émission consacrée à Léo Ferré, dans laquelle il sera question des interprètes.